that everyone out.
Eh oui, mais quelle voix, quelle voix, quelle voix. Et chème à moi, Monique. Je vous prie de me pardonner, j'ai oublié notre fameux générique au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération Anarchiste. Alors, Urbi comme Urbi, pour vos cartes de. Je vais faire vos achats de livres et vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Et c'est la librairie Publico, ouverte du mardi 14h au samedi, le matin, je crois que ça ouvre aussi. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Alors, Ghislaine Verdier, l'œil de la femme à barbe, c'est ça?
Bonjour.
Bonjour, c'est bien et poli avec ça.
Mais oui.
Oh là 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 là.
C'est
là
qu'on
là
ne peut être noir et avoir de l'éducation.
Comme c'est bien dit. Éditrice et maquettiste aussi?
Éditrice et maquettiste accessoirement,
d'accord.
Oui.
Vous avez publié Miroir en mon miroir, ça va pas parce que du tout là, j'ai un problème, voilà. De Christine, alors SLB, c'est ça?
Oui, SLB.
SLB.
S, est-ce que c'est LB?
D'accord.
Voilà.
Vous avez de la chance que j'ai une amie qui s'appelle Marie-France et son nom de famille c'est un S. Et quand on lui demande ses initiales, elle dit MFS. Donc vous êtes la passée.
D'accord.
Donc vous êtes là pour ce livre.
Oui.
Non pas sur le nom de Lydia Bellostic.
Oui.
Habituellement, c'est comme ça que je vous ai connue.
Oui.
Vous avez commis tellement de méfaits que vous avez changé d'identité, c'est ça?
Oui. Oui.
D'accord.
Oui.
Vous avez fait toute une série de photos d'écrivains, de poètes.
Oui, j'ai réuni une petite galerie de 60 poètes, 30 hommes et 30 femmes. Voilà. Et on continue l'aventure avec des vidéo-poèmes. Je demande aux poètes photographiés de me faire un texte sur la rencontre qu'on a faite ensemble, puisqu'on est resté une heure pendant laquelle je les ai prises en photo. Et donc, ils m'envoient un texte et je joins ma voix à leur voix. Et Benoît Villet, mon compagnon, en fait un vidéo-poème.
Benoît, qui a participé à l'aventure Romainville au temps du Covid, Benoît.
Oui, 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 là, depuis 3 ans, quasiment, presque 3 ans, enfin, depuis le début de cette pandémie, il m'a pris l'idée de filmer mon quotidien, mon quartier, pour faire un documentaire qui s'appelle Le Monde de Pendant, puisqu'on parle toujours du monde d'avant et du monde d'après. Moi, j'ai décidé à me consacrer au monde de Pendant et de ne pas être exhaustif ni de rentrer dans des polémiques à la manière des journalistes et des chroniqueurs assermentés, mais plutôt de prendre mon quotidien, les personnes que je croise et comment chacun est impacté à sa façon et les suivre au jour le jour pour avoir à la fois des personnages récurrents et puis des avis très contradictoires sur la façon dont on vit cette période-là.
D'accord. Et puis Catherine, Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Quelle politesse tout le monde aujourd'hui. Alors Nicolas Eprande, bon, on le connaît, il vient sur Radio Libertaire assez souvent, il participe à cette émission, j'allais dire déplorable, mais on va me couper la voix si je fais ça. C'est Trou Noir, tu participes à Trou Noir, très bonne
absolument
émission.
Très bonne émission.
De 16h à 18h, c'est ça habituellement?
Voilà, tout à fait, le lundi, tous les lundis.
Donc tu avais eu une très très bonne initiative, c'était de faire ce qu'on fait très rarement, c'était un théâtre radiophonique, tu avais monté ces lettres. D'Élysée Reclus, d'Élie.
De la famille Reclus pendant la Commune de Paris.
Voilà.
Et tu m'avais fait le plaisir, puisqu'on fait un peu de ping-pong, de lire un des rôles.
D'accord. Et je t'avais dit que c'était une très bonne idée de réitérer sur un autre sujet. Et comme tu n'entends jamais rien, je te le répète, tu as dans 93 de Victor Hugo un dialogue imaginaire entre Robespierre, Danton et Marat qui passerait à la radio de façon fantastique.
Très bien, je sais qu'on avait parlé de Christiane.
Oui, oui, mais qu'est-ce que tu as fait depuis rien?
Non, je suis désolé, il ouais, faut que me le dire au moins 2 fois.
Tu as fait un film sur Gaston Prunier. J'ai beaucoup aimé cette aventure que tu as eue. C'est quelqu'un que tu ne connaissais pas?
Non.
C'était une émission pour FR3, c'est ça?
Alors, c'est le film qu'est devenu cette affaire, cette rencontre. C'est effectivement un film qui a été produit par France 3 Normandie. Mais l'affaire démarre longtemps avant. Donc, voilà, je ne sais pas si tu veux que je te la raconte.
Non, on va consacrer la dernière demi-heure. Hein, voilà. Ce qui, donc, tu es parti à la rencontre, tu as rencontré des gens, de la famille, c'est ça. Et toi, tu n'es pas un spécialiste de peinture ?
Pas du tout.
Pas du tout. Et tu t'es pris au jeu ?
Il se trouve que, pour le dire en deux mots, puisque tu appâtes
l'auditeur.
Donc en fait, par un certain concours de circonstances, j'étais amené donc à rencontrer la petite nièce de ce peintre qui s'appelait Gaston Prunier, donc né en 1863, mort en 1927, qui est un peintre qui a eu une certaine reconnaissance de son vivant, et puis qui ensuite a disparu assez franchement des radars. Il est bien rare de rencontrer quelqu'un qui dise « oui, oui, je connais Gaston Prunier ». Et donc j'étais amené à rencontrer la petite nièce de ce peintre, et il se trouve que chez elle était conservé le fond d'atelier du peintre.
Voilà. Et ça se passe en 1907 environ, son œuvre, en plein dans l'affaire à Au Havre, en plein dans l'affaire Jules Durand.
Alors, entre autres, il est contemporain de l'affaire Jules Durand.
Vous connaissez l'affaire Jules Durand ou pas ? Personne. Donc, tout à l'heure, on en parle ensemble ?
D'accord, pas de
d'accord.
Problème.
Alors, cette émission, je voulais y consacrer tout un chapitre sur l'indécence, l'insolence, l'irrévérence. Hein ? J'ai reçu un livre d'Alain Marc, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qu'a écrit Polaroid. Je vais faire une émission avec lui et je ne trouvais pas comment je pouvais exploiter ce livre. Donc, je vais quand même vous lire la quatrième de couverture pour appâter ces dames et vous aussi, monsieur Nicolas. Le Polaroid est d'abord un concept. Écrire très près de l'objectif, très près du sexe en érection, moment très bref aussi. Aussi bref que l'orgasme. Écrire l'orgasme, l'obscène, l'immontrable et l'indicible. Écrire la vision instantanée, écrire la sueur aussi qui perle sous la peau. Fuir le mental et ne montrer que le corps, que son obscénité. Où le Polaroid remplacera le cliché photographique et pornographique. Un cycle du sperme, un cycle de la pisse, un cycle de la merde. À l'image des trois éléments de la matière sexuelle se sont dessinés au fur et à mesure de la venue de ces Polaroids. Voilà. Donc je ne savais pas tellement comment le prendre. On est au-delà
par
de la morale.
Par le bon bout est une
oui,
bonne idée.
Par le bon bout, je l'ai fait par le bon bout. Par le bon bout, 10, c'est au-delà du bien, au-delà du mal. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses, c'est qu'avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de la morale et de la censure, je veux dire que toutes ces choses-là, il faut les sauver. Hein, c'est bien mieux que la prière. Dernière nouvelle, c'est l'Amérique il y a deux jours, trois jours, avec l'avortement, etc. Ça veut dire aussi la contraception, ça veut dire aussi le mariage gay, ça veut dire aussi, on va dire, l'homosexualité. Hein. Donc tout ça, il faut le sauver. Et puis, j'ai correspondu avec Alain Marc, là, qui me dit à un moment donné, alors je lui dis, bah oui, le cycle de la pisse, le cycle de la mer, c'est pas tellement mon plat de prédilection. Et il me répond, il me dit oui, mais Pasolini a usé de la merde dans Salo. Ça vous inspire le film de Salo là, ils sont en train de le ressortir. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, Salo, c'est la république que Hitler a donnée en fin de partie à Mussolini, là-haut dans les montagnes. Et Pasolini a adapté un SAD. Hein, effectivement, il y a de la merde, de la merde, de la merde. Et c'était l'ouverture, c'est qu'à te le dire, c'était l'ouverture de dire, bah oui, on va faire ça, on va passer par là. Est-ce que, effectivement, puisque c'est Polaroid, c'est très sexe, et tu me mets, tu me suces, c'est comme ça que je l'ai là, est-ce qu'on est encore dans l'héroïde, dans l'érotisme ? Dans l'érotisme ou pas ? Ou alors, est-ce que le Polaroid est à la photo ? Est-ce que la gymnastique sexuelle est à l'éros ? Donc, on va poser ce problème comme ça. Et ce sera, je le ferai mi-septembre sûrement. Hein? Mademoiselle, vous avez écrit sur l'irrévérence ?
Oui,
c'est très bien dit. Vous pouvez nous faire part de...
Alors, l'irrévérence, c'est la dernière collection de la maison d'édition L'œil de la femme à barbe. Ça faisait longtemps que j'envisageais d'avoir une collection irrévérencieuse. Et j'attendais le moment opportun, et quand Christina a proposé ses photos et m'a demandé si on pouvait envisager de faire un livre ensemble, je me suis dit c'est parfait, ça inaugurera cette fameuse collection irrévérencieuse.
J'ai beaucoup aimé la déclaration de principe.
Alors, voilà ce que c'est que cette collection irrévérencieuse. Parce que rien n'est plus ennuyeux que le convenu, le conventionnel, le consensuel. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut pouvoir sourire de tout, ou presque. Parce que nous vivons des temps sombres et que nous avons besoin de lumière. Parce que l'ambiance est lourde et qu'il nous faut de la légèreté. Parce que la mort rôde et qu'il faut célébrer la vie. Parce que notre corps nous appartient, parce que nous estimons n'avoir de compte à rendre à personne, parce que nous n'avons que faire de la bienséance, encore moins de la bien-pensance. Voici la collection irrévérencieuse, ouverte aux râleuses et aux râleurs, aux inconvenantes et aux inconvenants, aux indécentes et aux indécents, aux pas contentes, aux pas contents, aux arpenteuses et arpenteurs de chemins chaotiques, aux défricheuses et défricheurs de liberté, aux artistes qui, avec talent, nous tirent leur irrévérence.
Voilà. Donc, si cette émission se fait, j'espère qu'elle se fera le 15 septembre aux alentours, vous êtes invitée, madame, à venir.
Eh bien, je reviendrai avec grand plaisir.
Voilà, avec quelques exemplaires de votre collection, ça me ferait grand plaisir.
Très bien.
Vous qui riez sous cap, mademoiselle, je ne sais même plus comment vous appelez maintenant. Vous avez utilisé le Polaroid ou pas?
Non. Non, non. J'utilise un portable.
Et est-ce que vous l'avez utilisé déjà?
Le Polaroid, non, non.
C'est un refus?
Non, non, non. Je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps, quand j'ai été faire les tirages là, des photos de miroir au mon miroir. Et parce que le laborantin, en fait, m'a proposé de me prendre en photo avec son petit Polaroid. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est une forme d'expression que j'explorerais bien. Voilà.
Mais Nicolas, tout à l'heure, on disait hors antenne que j'ai cité une ligne que j'ai lue dernièrement dans un très très bon livre sur la commune de Christine Cross, où elle dit ce sont les penseurs socialistes qui ont moralisé le mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé au bon ouvrier, au bon père de famille, on ne foutre pas, on ne boit pas. Je ne sais pas, c'est toi qui connais mieux que moi le mouvement ouvrier, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Alors, c'est peut-être large pour l'aborder comme ça, mais c'est sûr que il y a eu, par exemple, Jaurès va faire ça dans l'Humanité, notamment à propos de l'affaire Durand, avec en luttant contre l'alcoolisme, qui est effectivement un fléau social en soi, mais sans doute aussi avec l'espèce d'arrière-pensée de rendre les ouvriers responsables. Moi, je pense à une autre histoire comme ça, qui n'a pas vu le jour, mais qui peut... Il y a un critique d'art qui, à un moment, a eu l'idée de faire un musée du soir aux ouvriers. Alors, c'était bien... On est un peu à la période du début des universités populaires, de ces choses-là. Et donc, il propose un musée qui, s'il était advenu, ce serait tenu dans le 11e, donc dans un quartier très ouvrier. Et l'idée affirmée, c'était que, plutôt que d'aller au bistrot, il puisse se cultiver, ce qui est une bonne chose, et apprendre aussi certaines techniques... manuel, enfin des choses comme ça. Donc c'est effectivement des idées qui circulent pendant cette fin 19e, début 20e.
Tout à l'heure, je posais l'angoissante question savoir si le Polaroid est à la photo, ce que la gymnastique est érotique est à l'éros. Hein, voilà, j'en sais rien. Mais dans le texte d'Alamar Polaroid, il y a quelque chose qui est proche d'une de vos photos.
Oui, laquelle?
Je vais vous le dire. Ne soyez pas angoissés comme ça. Alors, il faisait le poirier nu et redescendit ses deux jambes de chaque côté de sa tête. Elle entra subitement dans la pièce et, le voyant ainsi positionné, se mit à se déshabiller lentement. Il resta ainsi positionné, le cul tendu. Elle s'approcha alors et s'assit doucement sur le fessier nu. Il sentit la chaleur du sexe et de sa touffe se faire de plus en plus chaud. Elle se mit alors à le branler violemment jusqu'à ce qu'il jouisse d'un jet puissant, s'expulsant et retombant en partie sur sa tête, yeux, nez et bouche. Et dans une de vos photos, oui, c'est la fin du livre, on vous voit... Ce qui est très impudique, vous allez expliquer votre impudeur, et puis, bien sûr, vous allez le faire, vous êtes là pour ça. On vous voit dans votre baignoire, les jambes en l'air, c'est l'appareil devant vous l'avez, ouais. Je ne sais pas si l'appareil devant vous, c'est quasiment de l'acrobatie. Vous ne faites pas le poirier, mais presque.
Eh bien, en fait, non. Vous ne vous êtes jamais regardé dans...
Vous me rassurez.
Oui, vous ne vous êtes jamais regardé dans la bombe des baignoires.
Mais j'ai pas de baignoire, madame.
Ah, c'est ça. Parce que, en fait... Si, c'est celle-là. Voilà. Donc, en fait, je prends ma douche et je regarde la bombe qui est à mes pieds. Et je vois mon cul. Donc, je prends mon portable, je vais chercher mon portable et puis je prends la photo. Ça veut dire que je ne suis pas réellement debout. Je suis entre la position debout et la position accroupie. Où je peux prendre la photo, où il y a le jeu des trous de la bombe et
ton trou de balle.
Et mon trou de balle, voilà.
Voilà. Un chat.
Comme c'est bien dit.
N'est-ce pas ?
Voilà. Ce qu'on va faire, on va écouter un peu de musique et puis on va descendre dans le trou. On va descendre dans le trou radiophonique, d'accord ?
D'accord.
C'est Radio Libertaire.
Something in a way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. Don't want to live her now. Don't want to leave her now. Oh, better believe me now. You're asking me, will my love grow? I don't know. You stick around.
Au micro, Monique, 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio Saint-Dionymède de la Fédération Anarchiste. Miroir, oh mon beau miroir, ça y est, je l'ai bien dit, ça y est, on est sauvés. Collection quoi ? Mm-hmm. Oh mon beau miroir !
Non, pas beau.
Non.
Oh mon miroir, c'est moi, je l'ai mal dit, j'arriverai jamais. Hein ? J'arriverai jamais aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a, ce titre. Voilà, on recommence.
Il est trop
miroir,
nul.
Oh, mon miroir. C'est mieux. Bon, j'ai encore une heure pour y arriver à peu près. Parce que c'est comme ça qu'on va s'en souvenir, de toute façon. C'est
tout
comme ça.
Fait.
Voilà.
C'est pour préciser qu'on n'est pas dans un conte de fées.
C'est pour préciser qu'on n'est pas dans un conte de fées. Le O s'écrit O-H et non pas O accent circonflexe comme dans le conte de fées. C'est plutôt miroir. Oh, mon miroir.
Alors, miroir, oh, mon miroir. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a pris comme ça qu'est-ce qui vous a pris ? J'étais un des premiers à voir les photos, je pense. Non, c'est possible.
Je ne sais pas.
Je les avais vues sous forme de grandes photos à la galerie L'Usine.
Ah oui. Non, c'est pas le même type de photo.
C'est pas le même.
Ah si, mais oui,
pas,
oui, bravo.
Oui.
Ah oui, je m'en souviens plus.
Mais moi, je m'en souviens.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous a pris quand même ? C'est quand même un acte, quoique, même si c'est déformé, etc., c'est très impudique.
Je ne les considère pas comme impudiques. Le résultat est impudique, effectivement. Mais bon, quand j'ai...
De pudique.
Et en fait, quand j'ai commencé la série, avant de commencer cette série-là, j'ai photographié les cuisses des dames dans le métro. Parce que je voulais faire un travail sur le corps et sur le désir. Donc, bon, pour pouvoir faire ce type de photo, il fallait que j'utilise le portable, parce que, bon, un vrai appareil photo...
Mais vous demandiez aux dames de le faire, ou vous
non,
comme ça?
Non, c'est des images volées. Voilà. Et donc, je...
Enfin, je tiens à préciser quand même que c'est des images volées des cuisses des dames. On ne peut pas reconnaître les personnes, évidemment.
Très bien. Et donc, je me promenais tout le temps avec mon portable et arrivé à la maison, le jour même ou le lendemain, peu importe, j'ai pris un bain et j'ai vu mon reflet dans la pomme de douche. Et j'ai pensé aux déformations, là, c'est qui quel photographe, je crois que c'est Koudelka, je ne sais plus.
Non, c'est qui
ça va me revenir. Bon, peu importe, un photographe qui a fait ce type de photo avec des déformations. Mais là, moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau, esthétiquement, et très parlant au niveau du désir. Parce qu'il y a le jeu des parties de mon corps qui apparaissent, Et la tige de la pomme de douche qui est entre mes cuisses, et il y a tout un jeu, en fait, bon, au niveau de comment on peut dire ça, au niveau...
D'une transposition d'un acte sexuel,
d'un acte
quasiment.
Sexuel, voilà. Donc, j'ai continué la série, en l'enrichissant avec ce qui se présentait à moi. Donc, les bondes avec mon derrière, avec les pommes de douche. Alors, chez les amis, à la maison, à l'hôtel, bon, selon les différents voyages. Et j'ai fait une suite qui n'est pas encore publiée avec les pressoirs des toilettes. Et là où on voit aussi une partie de mon corps, c'est-à-dire le ventre, le pubis et le slip qui est baissé et que je photographie en gros plan. Voilà. Voilà la genèse.
Tu parles très bien dans cette émission. Hein. Alors, miroir, oh, mon miroir.
Bravo.
C'est un jeu.
C'est un jeu.
Qu'est-ce qui se passe?
Parce que la vie, c'est un jeu, de toute façon. Parce que, d'abord, je trouve que c'est très audacieux de la part de Christina. Et moi, j'aime bien les femmes audacieuses. Est-ce qu'on a dit que la maison d'édition s'appelle L'œil de la
tout
femme à barre?
C'est comme ça que je vous ai présenté. Il fallait
d'accord.
Suivre.
D'accord. Oui, je n'ai pas suivi. Je suis désolée. D'accord. C'est
alors,
l'émotion.
Allez-y.
Et oui, c'est un jeu. C'est un jeu du début à la fin. C'est le jeu de Christina avec son corps. C'est le jeu qu'on a proposé aux auteurs des textes, voilà. Parce qu'il y a des textes dans le livre, parce qu'un livre, c'est aussi de l'écriture, et que j'y tiens. Donc, il n'y a pas de catalogue d'art, c'est que des livres avec des vrais textes, de vrais auteurs. Et quand on a fait la mise en page avec Christina et qu'on a constitué le chemin, le parcours dans le livre, on a déterminé 16 groupes de photos. Certaines vont toutes seules, d'autres vont par deux, par trois, quatre. Et on a proposé à des auteurs de tirer au sort un chiffre entre 1 et 16. Après leur avoir montré trois ou quatre photos pour qu'ils prennent la température du livre, on va dire. Et ils ont reçu leurs photos sur lesquelles ils devaient écrire un texte. Ils avaient complètement carte blanche dans la limite d'un nombre de signes réservés par rapport à la mise en page. Et tous ont joué le jeu en trouvant ça plutôt ludique, plutôt marrant. Et le but, c'était évidemment d'obtenir des textes différents, sur des tons différents, qui racontaient des histoires qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, pour que le lecteur y trouve lui aussi quelque chose de ludique, de plaisant. Il lit ou pas les textes, mais en tout cas, il n'y a pas une histoire qui se suit.
Alors, ça donne un ensemble avec des textes très différents.
Tout à fait.
Pour le lecteur que je suis, on aime pour certains d'autres on n'aime pas.
Bien sûr.
Certains sont opportunistes, comme toujours dans une telle entreprise. C'est-à-dire que les gens, on donne ça, ils veulent tellement écrire qu'ils écrivent. Moi, j'en ai trouvé un.
Oui.
Celui qui est pour moi le plus parlant.
Oui.
Par rapport à l'entreprise de Lydia.
Oui, Christina.
Oui, Christina, on va le faire. Hein. Et je vais le lire. Hein, je vais le lire.
Je vois ceci.
On peut le lire à deux, tous les deux. Vous voulez pas on fait un, on, si vous voulez, on se
le lire, et hop.
Alors, c'est l'incongruité amusante. Il m'est parfois arrivé de prendre ma bite en photo, parce qu'une femme me le demandait, en échange d'une photo de sa chatte conformément aux coutumes en vigueur sur les applications de rencontres. Mais prendre ma bite en photo de façon artistique, jamais. Surtout pas pour la mettre dans un livre. Ça me paraît tellement incongru. Et pourtant, j'en suis en train de répondre à une femme que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée, que je serais un foutu de reconnaître dans la rue. Et qui me demande un texte, ce texte en échange d'une photo de sa chatte dans le reflet d'un siphon de baignoire. Sans même le prétexte d'un coït, et je suis en train d'écrire ce texte avec un plaisir certain. Je pourrais digresser sur la photo elle-même, les gouttes d'eau sur le siphon, parler de ce liquide de façon érotique, suggérer qu'il ne tombe pas de la douche, mais du sexe photographié, évoquer l'hypothétique désir que cette affaire m'inspire, mais convenez que ce serait un peu attendu et surtout artificiel. Je préfère l'écriture quand elle est un moyen d'approcher au plus près la vérité de l'instant. Et la vérité de l'instant, c'est une sorte d'incongruité amusante. Assis derrière mon traitement de texte, un verre de vin pour seule compagnie, je m'amuse à parler du sexe de cette dame dans le siphon de sa baignoire pour les besoins d'un projet littéraire. J'ai beaucoup contribué à la littérature érotique, à la fois par mes écrits et mes activités d'éditeur au sein d'une maison bien connue. J'en ai publié des scènes de cul, des fellations affamées, des cunilingus gourmands, des levrettes endiablées, des vas-y, baise-moi, oui, oui, c'est bon. Et puis je m'en suis lassé, je suis allé chercher l'excitation ailleurs, dans les environs de l'érotisme, et devinez où je l'ai trouvé, dans l'incongruité amusante. Et je crois que moi qui en tant que lecteur, je suis lecteur, c'est, ce livre est sous ce signe-là. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose très dure. Très dure.
Oui.
C'est pas un livre, ma chère Christina et CLB, qui fait bander. C'est même, on est en dehors de ça. Et c'est là que je rejoins le livre de... C'est là que je rejoins le livre d'Alain Marc Polaroid. C'est-à-dire que il fait pas bander non plus. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à des attitudes de concept dans les deux cas. C'est-à-dire qu'à force de filmer, de prendre en photographie des choses, par exemple le selfie... Le selfie est dépourvu de chair. Ce nombre de gens qui prennent en photo ce qu'ils sont en train de manger, par exemple. Il y avait deux gamines il y a quelques jours à la terrasse d'un café. Alors, elles prenaient leur chantilly en disant « Tu vois ce que je mange de la chantilly ?» Mais en même temps, ça ne donne pas envie de manger. Et là, ça ne donne pas envie de bander et ça n'appelle pas à l'érotisme. Je sais que ça ne vous plaît pas, Christina.
Non, ça ne me plaît pas.
Je sais que ça
ne
vous plaît pas. Alors, ouais. Arguez vous-même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai employé le mot de gymnastique sexuelle en disant qu'il y a un côté acrobatique.
Oui, il n'y a pas de côté acrobatique. Vous ne vous regardez pas assez dans votre baignoire.
J'ai pas de baignoire, ça fait trois fois que je vous
dis. Oui, bah, il faut que vous achetiez une baignoire. Parce que si vous aviez une baignoire, eh bien, vous jouiez... pourrait faire l'affaire. Ouais. Vous pourriez jouer. Ouais. Vous pourriez jouer avec votre image. D'ailleurs, il y a une personne que j'ai rencontrée lors d'une exposition qui m'envoie. C'est un homme qui m'envoie ses photos maintenant sur les modèles de mes photos. Où quand il rencontre son image dans les toilettes, il se photographie. J'en ai pas beaucoup encore de lui, mais
ça
on est en train
école.
De.
Ça fait école.
Voilà. Et on est en train de constituer peut-être une autre exposition où il y aurait le côté féminin et le côté masculin, parce que je tiens toujours à ce qu'il y ait côté masculin et féminin dans mes photos. Et donc, quand on se regarde dans la salle de bain, dans la baignoire, On voit un bout de sein, on voit le ventre, on voit le pubis, et le fait de voir ces parties du corps qu'on n'a pas l'habitude de regarder, enfin qu'on ne regarde pas dans le quotidien, alors que ce sont des images qu'on a quotidiennement devant nous. Là, moi, quand j'ai vu mon image là, quand j'ai vu ce reflet, je me suis dit là, j'ai une image érotique. Là, j'ai envie de faire l'amour, voilà.
Au-delà de ça, au-delà du bien, du mal, au-delà de toute forme de morale, c'est extrêmement narcissique. C'est-à-dire, c'est moi, c'est le moi, c'est le moi.
Non, parce que...
Moi, papa Freud.
C'est une autre image. C'est une image de mon corps. Elle ne m'appartient plus. C'est la représentation. Quand on représente, quand on travaille artistiquement, en fait, ce que vous créez ne vous appartient plus au bout d'un moment. Et là, bon, j'ai une composition devant moi. Et pour moi, c'est pas du tout narcissique, parce que bon, c'est plus moi. Et bon, j'ai lu ça là dernièrement. Là, y a notre monsieur Platon qui a dit.
Il vient souvent sur Onde de Choc sur Radio Libre.
Ah ouais, 99.4. Ah ouais.
Il est très bien d'ailleurs.
Oui. Alors, il dit prenez un miroir. Et faites-le tourner et vous aurez le soleil, le ciel, la terre, les feuillages, les animaux. Vous aurez vous avez le monde devant vous. Et là, bon, j'ai le monde du désir devant moi en voyant ma propre image.
Chère Christine.
Oui.
Avant qu'on écoute un tout petit peu de musique et qu'on passe, on va se promener dans Romainville un petit peu, ça vous va ?
Très bien.
Une toute petite histoire sur le danger de ce genre d'attitude, c'est que j'avais dans mes relations une amie qui était professeure de philosophie, qui parlait plusieurs langues, intellectuellement, le plus brillant possible, et qui un jour, pour gagner sa vie, a décidé d'écrire des lettres érotiques pour une revue qui s'appelle « Les femmes vous écrivent » ou une chose comme ça. Cette dame, tous les matins, elle se mettait à 5h du matin, 6h du matin, dans sa cuisine, et elle écrivait des choses comme ça, et puis elle signait Christina, Ghislaine, Lydia, elle signait comme ça, et ça l'a rendue complètement impuissante, elle ne pouvait plus écrire après. Ça l'a complètement stérilisée, c'est-à-dire que tout ce qu'elle écrivait était réduit à l'état de concept.
Oui, grand silence.
C'est pas drôle comme histoire.
C'est pas drôle.
Estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno si scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor. Tornerà un altro inverno, aprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Estate che hai dato il tuo profumo a
estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore.
Eh oui, bah c'est la voix d'Anne Ducrot, magnifique voix au 01 43 71 89 40. Oui. Non, mais je vous rassure, c'est un très beau livre. Hein, je l'ai lu, je suis descendu, vous avez l'air inquiète, donc je suis descendu que c'est dedans, comme ça. Je suis aussi l'avocat du diable, c'est que j'ai quand même le droit. Hein.
Oui, voilà, oui, une lecture. Mais pas trop, hein.
Mais si, trop, bien sûr, je veux que les gens. Mais c'est bien ce que vous avez dit hors antenne, c'est bien.
Tant pis pour les auditeurs.
Tant pis pour les autres, c'était très bien.
Là, voilà.
Oui. On n'est pas dans un érotisme comme ça, jeté comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on est dans une théâtralité, on est dans une, bien sûr, dans une mise en scène. Ouais, ça vous va, ça?
Tout à fait.
Oui. Mais c'est une mise en scène impromptue. C'est-à-dire que à chaque fois,
c'est bien l'impromptu.
Ouais, c'est à chaque fois, c'est une rencontre, c'est un saisissement en fait. C'est, je vois mon image. Bon, il y a une image qui apparaît. C'est un petit peu je sais pas si vous êtes trouvé confronté
à une baignoire, non,
à un tableau de Pistoletto. J'avais été voir il y a bien longtemps une exposition là sur l'Arte Povera et je me promène dans l'exposition, j'aime beaucoup me promener dans les bois partout, là je me promène dans l'exposition et je vois un tableau, donc je m'approche et hop, je vois mon image. Voilà, je suis saisie. Et là, ce qui se passe quand je fais ces photos-là, c'est que je suis saisie. Il n'y a jamais une théâtralisation ou une quelque chose de recherché. C'est à chaque fois, c'est une rencontre, c'est un saisissement. Et là, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, je photographie. Et c'est l'acte photographique par essence.
Et après, c'est réfléchi parce que vous en faites un livre. On est bien sur Radio Liberté 89.4, on va passer à Benoît. Petite parenthèse, alors c'est arrivé il y a deux ans dans un café à côté, comme ça. C'était l'époque où une dame a fait une performance au musée, aidez-moi, où il y a les Courbets, tous les beaux Courbets là-bas, ça va nous revenir. Oui, alors c'est Orsay, comme ça, il y a une dame, je crois que c'est une Danoise qui a.
Non,
qui
elle est belge.
Elle est belge, qui a levé ses jupes, qui a écarté ses cuisses.
Elle est belge. Et elle s'appelle Déborah de Robertis, je crois. Oui.
La photo est passée légèrement floutée sur SLI, un truc comme ça. Et il y avait des types qui étaient là. Et le premier truc, ça a été « Ah, la salope !»
Voilà.
Non, voilà. Pourquoi je suis favorable à ce genre de lire, mademoiselle, je vous rassure.
C'est-à-dire qu'en fait, les gens supportent la vision peinte de Courbet et une femme qui montre son sexe dans la même position. Est une grosse salope.
Et c'était unanime, hein. Il y avait cinq types, etc. Ah, la salope.
Et elle en a fait d'autres, elle fait performances comme ça, entre autres, Sainte Vierge à Lourdes, enfin bon.
Donc faites tout ça, ce qui se passe, le religieux, avec toutes les censures qui vont nous tomber dessus, il faut le faire. Benoît, je sais que c'est dur de la supporter, voilà, avec tout ça, je sais même pas.
La commode, ce qui me rassure, c'est que ça restera dans les annales, tout ça.
Mais le mot annale est bien employé, voilà. Mais tu es un saint, tout le monde le sait. Bon, d'accord. Tu es donc. Non, c'est pour ça que je tenais de faire cette émission avec Nicolas, parce que notre Gaston Prunier est un peintre qui a témoigné, en fin de compte, du mouvement ouvrier. Qui l'a fait dans une ville, Le Havre, qui ne devait pas être facile au début de siècle, c'est ça?
Oui.
Ça ne devait pas être facile avec toutes les grandes grèves qu'il y avait. Et toi, c'est Romainville. Romainville, ce n'est pas une ville facile non plus, non?
Oui et non. Moi, j'habite à Romainville, pas spécialement par choix. Je dis toujours que j'habite à Romainville parce que mon pays, c'est Lydia, en fait. Et c'est là où elle habitait, donc c'est à cet endroit-là que j'ai décidé d'habiter.
Vous parlez très bien sur Radio Liberté. Qu'est-ce qui vous arrive sur Radio Liberté? Ça n'a jamais été comme ça, oui.
Et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant d'aller à la découverte des gens qui m'entouraient à Romainville. Alors, c'est la réputation du 9-3, on la connaît. Elle est complètement fausse, évidemment. Il n'y a pas de mobylette qui brûle tout le jour devant chez moi. J'ai jamais été agressé. Il y a des familles, tout ça. Et en fait, le fait d'avoir pris la décision de tourner ce film pour aller à la rencontre des habitants qui m'entourent immédiatement, c'est-à-dire je filme même pas dans tout Romainville, je filme dans un tout petit quartier très très réduit. Je fais quasiment le contraire de ce que j'ai fait dans ma vie de documentariste avant, puisque j'ai été plutôt dans d'autres pays, etc. Et là, c'est au pas de ma porte, quoi, que je fais ce film-là, mais sur la longueur. Et donc, en fait, ça me permet aussi de pouvoir restituer la parole de tous ces gens qui nous entourent, c'est-à-dire ceux qu'on sanctifie à longueur de journaux, qu'on appelle les gens de première ligne. Avec une espèce de... Bon, on les met dans une boîte et puis on continue à les exploiter. Et en fait, pendant ce temps-là, pendant la période du Covid, par exemple, il y a beaucoup de Parisiens qui se posaient la question de savoir quelle recette de tarte aux pommes ils allaient pouvoir inventer ou est-ce qu'ils allaient relire tout Balzac. Pendant ce temps-là, il y avait les gens qui venaient leur apporter les colis, qui venaient s'occuper de nettoyer leur maman, qui venaient s'occuper de différentes choses et qui venaient assez souvent de la région de Seine-Saint-Denis, quoi, du 9-3. Donc, pour moi, c'était intéressant de... déjà d'aller à la rencontre de ceux qui sont immédiatement à côté de moi et aussi de faire parler ceux qu'on fait jamais parler à la télé, sauf pour dire soit qu'il y a une mobylette qui brûle quelque part ou qu'il y a un petit arabe méritant qui a réussi à s'élever à la force du poignet. Mais pour parler de gens normaux qui habitent dans une région normale, ça s'est pas fait à cet endroit-là. Donc c'est la grande originalité du film que je tourne, en fait.
Qu'est-ce que tu vas en faire de ce film?
Alors, je travaille dessus depuis presque 3 ans maintenant. J'ai accumulé 430 heures de rush utile, c'est-à-dire des rushers. Ça dira quelque chose à Nicolas, je pense. Et il y a une 120 personnes d'interviewées et j'ai un premier ancrage du film qui sera une projection au cinéma Le Trianon à Romainville, qui est le cinéma mythique de l'émission d'Eddie Mitchell qui s'appelait La Dernière Séance. Et donc c'est devenu un cinéma qui est à 2 pas de chez moi. Et quand je dis 2 pas, c'est quasiment au sens propre du terme. Et donc j'ai un accord avec Le Trianon pour, au printemps, projeter un 90 minutes issu de toute cette accumulation de témoignages.
Alors, parmi les choses à citer aussi, c'est que à un moment donné, les gens se mettaient au balcon pour applaudir les problèmes. Oui, et du jour au lendemain, ça a été fini.
Oui. Voilà. Oui, ça fait partie des points de passage du film.
D'accord, parce que ça faisait très très bien. Tu sortais au balcon, tu applaudissais.
Oui.
Et puis, voilà.
Je suis en train de mettre au point une séquence pour reconstituer ces applaudissements au balcon dans ma rue, en essayant de les faire filmer par drone. Pour l'instant, j'en suis au stade des autorisations, parce que c'est très compliqué en Ile-de-France sur ce plan-là.
Avant qu'on passe dans à la morale prolétaire, à l'art de Gaston Prunier, il y a une dame, on ne sera peut-être pas d'accord, c'est comme ça, c'est Rachel Kéké. Vous l'avez suivi, l'aventure de Rachel Kéké, cette dame qui a mené la grève des femmes de Libye. Alors, magnifique. Elle a ce discours, alors on revient à Benoît, où elle dit, mais s'il n'y a personne pour faire les lits, s'il n'y a personne pour vider les poubelles, il n'y aura pas de tourisme. Et comme on sait que la France vit par le tourisme, elle y va tout de suite, elle dit, nous sommes les gens principaux de ce pays, c'est nous qui sommes à sauver. Oui. Et là, c'est très... Alors, donc, elle est franco-ivoirienne, elle a mené cette lutte, elle a été politiquement formée par la CGT, car elle a un bon phrasé politique.
Puis la France insoumise l'a récupéré et son phrasé politique a progressé. Et voilà, cette femme, au début où elle a commencé à militer, comme ça, elle a eu des sympathies. Elle a eu des sympathies pour des régimes pas très fréquentables.
Pas bien propre.
Mais pas très fréquentables. Et là, il y avait deux chroniqueurs bourgeois et une députée de la macroniste qui lui tapait dessus. Comment on peut, alors qu'on a une sympathie pour un tel. Et ils ne veulent pas comprendre que cette dame a fait un grand écart dans sa vie. Mmh. Il y a une évolution qui est une évolution gigantesque. Mmh. Voilà. Là, mais oui. Cette dame était... Non, je ne sais pas ce que vous... Non, c'est... Voilà.
Ah ben moi, ça me parle complètement. Enfin, voilà. Moi, je sais que dans le cadre du film que j'ai fait, j'ai dépensé une grosse énergie pour pouvoir filmer les gens qui ramassent les poubelles devant chez moi. Et alors, on les appelle les rippers, on les appelle les agents de propreté, on a tout un tas de terminologies pour aussi les mettre dans la boîte où on a envie qu'ils soient. Mais en réalité, ça a été très compliqué pour moi parce qu'il fallait... les autorisations de Veolia, etc., que j'ai pu obtenir. Mais du coup, on a pu aller filmer au dépôt des ordures au sitcom, faire la tournée avec eux, les interviewer, comment ils avaient vécu cette période-là, etc. Et c'est des gens dont on parle, mais c'est des gens qu'on ne fait pas parler habituellement.
Ce qu'on appelle les transparents.
Oui, les invisibles, les transparents. On a un peu parlé souvent de ces choses-là. Voilà.
C'est une histoire que j'ai racontée 3-4 fois. Ça m'a tellement choqué qu'au micro de Radio Libertaire, c'est une dame qui travaillait, qui faisait des chiottes dans un musée. Noire, très très noire, très digne, très droite, très silencieuse, très courtoise, comme ça. Et elle travaillait 2 heures le matin. Elle avait 2 heures de transport, 2 heures de boulot. Oui. Il y avait un petit blanc qui lui faisait signer un papier comme quoi elle avait bien fait ses 2 heures. Une fois qu'elle avait fait ses 2 heures, elle repartait, elle se retapait de 2 heures de boulot, etc. Toute la journée comme ça. Et un jour, elle a disparu. Personne ne s'est intéressé à elle. Et elle est morte d'un cancer dans son coin. Voilà.
Ouais, oui.
Les histoires comme quoi la lutte des classes est encore là, l'axe nord-sud est bien là.
Est-ce que je peux préciser que la révolte et la grève des femmes de chambre a fait l'objet d'un film documentaire de Thibaut Ferrier, que je cite parce que c'est un ami, et je crois qu'il doit être diffusé à la télévision. Je crois que le film est vendu et qu'il sera... disponible bientôt. Donc voilà.
Mais dans le même, tout à fait dans le même cas de figure, c'est-à-dire une lutte de femmes employées dans un hôtel. Là, c'était vers la porte de Saint-Cloud, Neuilly, quelque chose comme ça. Il y a Denis Gerbrand qui a suivi une lutte tout aussi exemplaire et victorieuse aussi, quand même. Et voilà, qui a fait aussi un très beau film qui s'appelle joliment On a grévé.
Nicolas, ce monde, c'est le monde ouvrier, c'est l'histoire du mouvement ouvrier. Là, c'est aussi celui qu'a connu Prunier dans les années 1910, à peu près. Tu peux vite fait, puisque là, je suis là avec des incultes politiques en face de moi, là. Personne ne connaît l'histoire de Jules Durand. Tu peux essayer.
Alors, j'essaie de faire ça un peu rapidement, même si l'affaire est un peu complexe. Mais effectivement, ce peintre sur lequel j'ai fait un film, qui s'appelle Gaston Prunier, je m'y suis intéressé parce que, un peu auparavant, je m'étais intéressé sur une autre affaire havraise. Gaston Prunier est né au Havre lui aussi, qui s'est appelé l'affaire Jules Durand. Ça se passe en 1910, et en fait, Jules Durand, l'affaire Jules Durand, est le cas unique, et on espère que ça va continuer à rester unique, d'un syndicaliste condamné à mort dans le cadre de ses activités syndicales, ce qui n'est pas tout à fait banal. Alors, en quelques mots, on est dans une période qui est très très agitée socialement. Il y a énormément de grèves, toute cette période des premières années 1900 jusqu'à 1910, je crois qu'il y a plus de 1500 grèves dans toute la France, des grèves longues et parfois qui impliquent plusieurs milliers de personnes, donc c'est même une période presque pré-insurrectionnelle. Le Havre ne déroge pas à cette pratique. C'est une ville plutôt assez agitée, avec des côtés anars, mais pas que. Et donc, il y a eu plusieurs grèves dans les mois qui précèdent le mois d'août 1910, où il y a eu des grèves plutôt assez victorieuses. Voilà. C'est jamais simple, mais qui là se sont bien passés. Et donc il y a entre autres corporations sur le port du Havre. Il y a les dockers du charbon qui sont un peu la corporation la plus méprisée, la plus pauvre et bien souvent la plus alcoolisée. C'est-à-dire que c'est en fait le travail des dockers du charbon, c'est parce qu'à l'époque ça se fait encore en gros à la main, enfin au dos. Ils transportent le charbon qui arrive. Le charbon, c'est l'énergie de l'époque, hein. C'est comme l'électricité ou l'essence aujourd'hui. Il n'y a plus de charbon, tout s'arrête. Et donc, ils transportent le charbon, ils déchargent les bateaux pour qu'ils soient déchargés sur le port, ou ils remplissent les cales des transatlantiques qui vont aller vers les États-Unis, ainsi de suite. Et ces gens-là sont payés des misères. En général, on ne les paye pas en argent, mais on leur donne des jetons qu'ils devraient aller changer au bistrot. Et au bistrot, évidemment, s'ils ne boivent pas un coup, voire deux, ils vont attendre longtemps avant qu'on leur donne, change leur jeton en argent. Et donc, dans cette ambiance très revendicative de 1910, les charbonniers du port du Havre vont dire, nous aussi, on va faire grève. Il y a différents motifs à cette grève. Enfin, voilà, ils vont se lancer dans une grève qui est le leader... La personne qui va être le secrétaire du syndicat des dockers du charbon, donc s'appelle Jules Durand. Donc c'est lui qui va prendre la tête de ce mouvement. Il est un peu particulier dans cette corporation, à savoir qu'il est plutôt éduqué et s'il n'a peut-être pas toujours été, il est devenu abstinent, donc il ne boit plus. Donc c'est un peu un être à part dans la corporation. C'est des gens qui, pour certains, n'ont plus de logement, ils dorment plus ou moins sur le port, enfin, c'est très très rude. Et donc la grève va prendre tournure, dure depuis plusieurs semaines, et elle commence à causer beaucoup d'embarras à l'autre CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, puisqu'il y a aussi la CGT du travail, donc les deux sont en opposition, et donc la Compagnie Générale Transatlantique se voit parfois obligée d'aller faire ravitailler ses bateaux de l'autre côté de la Manche pour pouvoir remplir les soutes de charbon et leur faire traverser l'Atlantique. Donc voilà, ça pèse, c'est comme si on coupait l'essence, il y a un moment ça grince un peu. Et donc, il y a un moment, il va se passer un incident. L'incident, c'est qu'en fait, il va y avoir une rixe entre un non-gréviste et des grévistes, qui tous vont être aussi éméchés les uns que les autres. Il va y avoir bagarre. Et le non-gréviste, qui s'appelle Donger, va se trouver un peu roué de coups par les autres et transporté à l'hôpital. Au petit matin, il décède. Donc voilà, ça va être... Un fait que la Compagnie Générale Transatlantique va saisir pour discréditer le mouvement. Et en fait, très vite, ils vont orchestrer des faux témoignages de dockers du charbon qui vont leur demander de dire qu'en fait, Jules Durand a appelé, en gros, au meurtre de ce Donger non-gréviste en réunion syndicale. Et donc, l'affaire va s'emmancher comme ça. L'instruction est faite à charge, évidemment, même si, par exemple, un des commissaires locaux au Havre dit que non, il n'a jamais entendu parler de ça, il a des indices dans toutes les réunions, il n'a jamais entendu parler de cette affaire, on ne l'écoute pas. L'idée, c'est briser la grève, briser le syndicat, et ce type un peu embarrassant, qu'on ne sait pas comment saisir, s'en débarrasser. Et donc, il va être inculpé, emprisonné, avec les autres secrétaires adjoints et trésoriers. Au début, c'est pas tellement inquiétude, puisque finalement, le leader syndical à l'époque, c'est s'attendre tôt ou tard quand même à aller en prison, parce que c'est quand même assez mal vu, le dialogue social est un peu moins feutré qu'aujourd'hui. Donc voilà, et le procès arrive. Il se trouve que Durand va être défendu par un jeune avocat à l'époque, amené à un peu plus de célébrité, qui s'appelle René Coty, donc il va devenir président de la République, et plutôt très mal défendu. Et de fait, le jury populaire va pas très bien comprendre ce qui lui est demandé, mais en fait, en répondant d'une certaine manière aux questions, le fait est que Durand va être condamné à mort, ce qui s'est jamais vu, et puis qui est impensable quand on imagine qu'il n'était pas présent au moment de cette rixe, il n'en a jamais parlé. Enfin voilà, aujourd'hui, tout ça n'arriverait pas. Donc voilà l'histoire de Durand. Une forte mobilisation syndicale et populaire va s'en suivre en France, bien sûr, mais un peu partout dans le monde.
International aussi.
Ouais, tous les ports dans le monde.
Les ports ont été bloqués à cause de ça.
À Anvers, même jusqu'en Australie, aux États-Unis, il y a eu des mobilisations autour de ça. Et la mobilisation va faire que, en fin décembre de cette même année 1910, la peine de Durand va être commuée en 7 années de bagne, je crois, sur de la durée. Ce qui ne suffit pas non plus quand on est innocent. Donc la mobilisation va durer. Entre-temps, les conditions qui sont celles d'un condamné à mort sont très dures, parce qu'en fait, il semble qu'il ait eu ce qu'on appelle des accès de démence. Enfin, en tout cas, il ne se sentait pas bien. Donc on le mettait en camisole et dans certaines conditions avec une cagoule sur la tête. Donc ça n'a pas tout à fait à garder l'esprit sain quoi, quand ça dure plusieurs semaines. Et donc il va finir par être libéré au mois de février, je crois que c'est le 16 février de l'année qui suit, 1911. Mais en fait, le pauvre, il aura perdu la tête. Il va passer quelques semaines en liberté où ça ne se passe pas très bien et finalement il va finir sa vie en asile psychiatrique, dans les institutions rouennaises.
Histoire du mouvement ouvrier très connue, qui a eu une résonance énorme à l'époque.
Oui.
Une résonance énorme. Plus
très connue aujourd'hui, mais...
On s'en rend compte, oui. Et donc Gaston Prunier est témoin de... c'est l'époque, c'est le creuset de Gaston Prunier.
Alors, Gaston Prunier est témoin de ça. Gaston Prunier, donc c'est un peintre qui est né au Havre en 1863, mais qui de fait va avoir une carrière de peintre assez classique, un peu Beaux-Arts et autres, venant d'un milieu très populaire. Son père est vannier, et de plus il perd ses parents très très tôt, à 8 ans il est orphelin des deux, donc un début d'existence pas très facile. Mais de fait, Prunier n'est plus au Havre au moment où cette affaire se produit. Ce qui, moi, va me donner l'idée de m'intéresser à Prunier, c'est qu'en fait, donc au Havre, il y a une association qui s'appelle l'Association des Amis de Jules Durand, qui s'intéresse à cette affaire qui cherche à la faire connaître et à faire connaître l'actualité aussi de cette affaire-là. Et donc, en fait, ils vont organiser une exposition en 2016, j'allais dire 1916, en 2016. Et pour illustrer le carton d'invitation de cette exposition, ils vont utiliser un tableau, une reproduction d'un tableau en noir et blanc, à l'époque je ne sais pas très bien ce que c'est, qui s'appelle « Menace de grève ». Et là-dessus, on voit, c'est le quai au charbon, donc on voit des types avec des paniers remplis de charbon, et ils sont surveillés par des soldats, il y a des faisceaux de fusils, donc le port, le quai est surveillé par les soldats. Donc c'est typiquement l'illustration de l'affaire Durand. Et donc, du coup, en cherchant un peu autour de Durand, je me dis, bah tiens, c'est peut-être intéressant, ce peintre, il est né au Havre, peut-être qu'il a fait d'autres choses là-dessus, donc je vais me mettre à enquêter un peu sur ce peintre. Et après quelques recherches sur Internet, on lance des trucs comme ça, je vais finalement être mis en contact par quelqu'un qui me dit qu'il est un petit-neveu, enfin, éloigné comme ça de Prunier. Et il me dit, moi je sais pas grand chose, mais il y a une dame, c'est sa petite nièce, si quelqu'un sait quelque chose, c'est elle. Et donc voilà, correspondance, papier, à l'époque. Et puis j'ai fini par rentrer en contact avec cette dame, qui s'appelle Colette Monestier, et qui s'est trouvée vivre dans ce qu'était l'atelier de Gaston Prunier, dans le 15e arrondissement à Paris, et qui de plus a conservé le fond d'atelier du peintre. Donc une grande quantité d'aquarelles, de dessins, de matériaux graphiques, puisque Prunier, même s'il a fait des huiles, était surtout connu comme aquarelliste. Voilà, en gros.
Et ça montre quoi ? Ça montre la vie ouvrière ou pas ? Parce que moi, j'ai vu ton film. Hein ? J'ai trouvé ça très doux, en fin de compte. C'est pas une peinture du tout violente. C'est pas une peinture militante. Si on s'attend à voir un Delacroix, la liberté guidant le peuple, c'est pas du tout ça. C'est un témoignage comme Stein Lane faisait à Montmartre. Non, je sais pas ce que tu en penses, non.
Alors, Stein Lane, lui, était militant, puisqu'il a participé à beaucoup de publications, Anna, enfin, il était vraiment dedans. Il se trouve que Prunier n'est pas militant. En tout cas, moi, je ne lui ai pas trouvé d'engagement, d'implication forte dans des mouvements très clairs et très identifiés. Mais en revanche, effectivement, il va beaucoup s'intéresser à la représentation du travail, à la représentation de lieux de travail. Donc, il y a des huiles avec des usines, des choses que peu de gens ont faites, à toutes les marges de la ville, de Paris notamment. Et au tout début, 1899-1900, alors qu'il est encore plus présent au Havre que par la suite, en fait, il va aller sur le quai au charbon et il va représenter, il y a toute une série qui est assez étonnante, il va représenter justement tous ces ouvriers dockers du charbon dans des conditions, et on voit bien que c'est un endroit... Il y a des peintres qui sont venus sur le port du Havre, comme Pissarro, Monet, des gens comme ça, mais qui est plutôt sur l'avant-port. Ouais. Et là, on voit bien qu'il va vraiment à l'intérieur du port, dans des lieux qui sont recommandés à personne, parce que c'est dégueulasse, c'est de la poussière de charbon, on s'intoxique autant que si on était à la mine. Mmh. Et on sent que sa présence est plutôt assez naturelle, parce qu'il est assez proche des gens. Il a fait aussi des portraits de dockers du charbon.
On est dans les années 20.
Ça, c'est plutôt tout ça, c'est avant 1900.
Mais lui, il meurt en 27.
Il meurt en 27, oui.
Et il vit très loin de ce qu'on appelle l'avant-garde, c'est-à-dire le cubisme, il ne connaît pas, le surréalisme, il ne connaît pas, etc., etc.
Non. Alors, c'est pas sa génération, puisque lui, il est plutôt de la... Enfin, il en est contemporain.
Contemporain.
Mais en termes d'école, un de ses torts, sans doute, c'est d'avoir jamais été membre d'une école... pictural, puisqu'il y en a beaucoup à l'époque qui se succèdent presque tous les 10-15 ans, mais il est contemporain, je dirais, des symbolistes Nabi d'une part et des néo-impressionnistes d'autre part, comme Signac, Seurat, Luce, enfin des gens comme ça. Il est contemporain de ces gens-là et il a certaines expositions collectives où il est présent avec eux.
Et ça se voit, on peut les voir, les toiles, ou pas, où il y a un musée Prunier.
Il n'y a pas de musée Prunier. Une des difficultés avec les peintres qui ont surtout travaillé l'aquarelle, c'est que bah, évidemment c'est des matériaux fragiles, et donc en fait les conditions de conservation font que les musées ne peuvent pas les exposer en exposition permanente. En fait, ils peuvent, il y a des conditions assez strictes, je crois que c'est 2 mois, puis après il faut que ça reste un an ou deux à l'ombre. Donc voilà, on ne peut pas les voir en exposition permanente. Il y a, à partir de ce fonds d'atelier, il y a des musées qui ont acheté des œuvres de Prunier, donc qui commencent à en avoir et qui les exposent ponctuellement. Donc le musée Malraux au Havre, on a acheté une dizaine. Il y a le musée de l'histoire vivante à Montreuil, on a acheté 10 aussi. Et puis là, il y a des choses qui sont en bonne voie avec le musée Carnavalet. Donc voilà, donc ça commence à rentrer. Il y avait déjà des choses dans les musées, et là il y a d'autres choses.
On peut le voir, ton film, ou pas? Oui, non.
Alors oui, enfin moi, je peux.
Non, mais est-ce qu'on peut le voir publiquement, ou il passe?
Bah, il a été diffusé sur France 3 Normandie, donc ça c'était au mois de février. Après il y a maintenant c'est moi qui essaye d'organiser des projections. Voilà, donc je suis. Ouvert à toute sollicitation dans ce domaine.
Avant qu'on écoute un brin de musique et puis qu'on récapitule comme ça, par rapport à l'alcoolisme au Havre, il ne faut pas oublier que les cafés, tout c'est une économie qui à l'époque tourne en vase clos. C'est-à-dire, il y a un film de Verneuil, je crois, qui pose très bien le problème. C'est un type qui sort de prison, qui remonte dans la ville où il habitait. Il dit au chauffeur de taxi, tu vois le café, il appartient à un tel qui a les filatures, qui a lui-même la buvette, qui lui-même achète le joueur de football, qui est le même qu'à la presse. C'est-à-dire que tout l'argent est en circuit fermé. Voilà. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, le phénomène dont tu sais, l'expression avoir une ardoise, ça venait là, ça vient de là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer, on mettait leur nom et l'argent qu'ils devaient, quoi. C'est une cruauté insane.
With jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. And I know the reason why.
goodness knows you're my honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to dunk my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When you're taking dips from destined lips, Sims and honey fairly drips. Goodness knows, honeysuckle rose.
Au 01 43 71 89 40, avec cette très belle exposée sur, sur Jules Durand, ces dames ont écouté, maintenant elles veulent se délivrer, elles veulent se débaucher. Donc, le livre d'Alain quoi. Marc, Polaroid.
Alors, texte page 37, Polaroid, ça fait 56. L'escalier comme les mains de l'amant absent. Elle descendait parfois les escaliers, le pas légèrement saccadé, pour sentir ses seins bouger d'une douce élasticité à chaque marche franchie. Elle ressentait une sensation fort agréable quand elle descendait ainsi les escaliers tant connus, qui lui remontaient le long du corps comme si ce n'était pas les lois de la pesanteur, qui faisaient ainsi descendre et remonter ses seins, mais les mains d'un délicieux amant absent pour le moment.
Bravo. Ghislaine, oui. Mais celui-là, il est quasiment chaste. Vous avez choisi le texte de plus chaste.
Ah, bah, c'est le premier qui m'est.
Mademoiselle Ghislaine.
Alors, bah, là, je ne sais pas où ça commence. Voilà. Ah, bah, il est long, celui-là. Voilà. C'est peut-être un peu long.
Nous sommes bien sur Radio Liberté, 89.4.
Alors, c'est long et c'est très long. Alors, attends. Je ne sais pas. Ah, écoute, je prends au hasard. Il est allongé et elle accroupit le dos entre ses jambes, caressant tour à tour son clito, ses lèvres, le scrotum ou l'anus de l'homme ainsi offert. Elle s'appuie sur les genoux légèrement relevés de son partenaire et va et vient. Les mains de l'homme autour de sa taille ou sous les fesses ne font plus qu'accompagner le mouvement. Il commence par enduire la zone de salive, puis il lubrifie complètement l'endroit de gelée, de pétrole. Il masse ensuite l'anus avec un doigt en le faisant entrer graduellement. Une fois le premier bien enfoncé, il insère le deuxième. Dès que l'anus est bien détendu, il lubrifie alors son pénis en érection et l'insère graduellement. Commence alors le va et vient, lent, puis rapide, rapide. Rapide.
Magnifique, mesdames, c'est magnifique. Bon, cet extrait de.
C'était
de
moins chaste.
Polaroid, texte, poésie instantanée. C'est aux éditions Timbal. Et puis, voilà, on fera une émission mi-septembre et vous allez venir.
Avec grand plaisir.
Voilà, ça va être grand plaisir. Même si on est choqué, d'aucuns seraient choqués, c'est quand même mieux que la prière. Ah oui. C'est quand même mieux que toutes les nouvelles qu'on reçoit.
C'est même mieux que le boogie-woogie, même avant la prière du soir.
C'est mieux que toutes les nouvelles aseptisées
bien
qu'on
sûr.
Reçoit.
Bien sûr.
Hein? Ouais. C'est même, quand même mieux que. Petite parenthèse, et comme il y a la guerre, qui est passée au niveau de l'image. C'est une image aseptisée. C'est terrible. Donc une réaction, on a l'impression que ça peut exploser. Ce serait la même chose. Voilà. Ouais. Sur Radio Liberté 89.4. Miroir. Oh, mon miroir. Comment c'est dit ?
C'est bien dit.
C'est bien dit, hein.
Vous le dites correctement,
mon
cher.
Je peux recommencer. Miroir, oh mon miroir. Christina.
Voilà. Oui.
Alors, je ne sais même plus comment vous vous appelez maintenant.
Ça y est,
c'est SLD. Bon. Et c'est aux éditions Collection Irrévérencieuse.
Chez l'œil de la femme à barbe édition.
D'accord. Et ça se trouve en librairie?
Oui. D'accord. Alors, difficilement. On le trouve à la Musardine, par exemple, à Paris. Parce que Stéphane Rose est l'auteur du texte que vous avez lu, Jehan, tout à l'heure. Et qu'il est directeur de collection à la Musardine, donc il savait pertinemment de quoi il parlait, parlant des « Oh oui, vas-y, vas-y ». Et voilà, et sur le site internet, l'œildelafemmeabarbe.fr, le livre coûte 20 euros et il est expédié en port offert. Voilà. L'ai-je bien promu ?
Tout est bien, tout est bien. Vous avez bien promis « Miroir au
Mon miroir.
Lilia, c'était un plaisir, moi oui. aussi, voilà. On avait fait une émission ensemble, en quelle année ?
En 2011, et d'ailleurs, on parlait déjà du nu.
Ça ne m'étonne pas de vous.
C'était en compagnie de Roxane Maurer. Et en fait, tu m'avais invitée à l'usine où il y avait une exposition, où il y avait un happening du peintre Natto. Et où j'avais pris des photos en étant là estomaquée. J'ai reçu un coup de poing.
Parenthèse, vite fait. Alors, Natto est peintre. Ouais. Il se promène. Il est peintre. On l'appelle le peintre Natto. Il se promène à poil dans n'importe quel endroit et il fait ses happenings avec des dames qui ont
80 ans,
85 ans, etc.
Et 40 ans.
Et il y a beaucoup de gens qui devant la décomposition de la chair, se sauvent. J'en ai vu se sauver,
La décomposition de la chair ou les maux infligés par l'âge. Parce qu'elles n'étaient peut-être pas encore complètement décomposées, les dames, quoique âgées.
Je vais vous répondre, madame. Le peintre Natto publie ses exploits. C'est parfois difficile. La vie est parfois difficile. Et aussi pour quelque chose, parce qu'il y a une souffrance. Une souffrance du visage. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à une chorégraphie. Voilà.
Bien sûr.
Monsieur Benoît,
oui.
Bah bravo. Si le film passe sur Romainville, on y va tous.
Oui. Oui. Hein? J'apporte une petite précision. Le film est tel qu'on en a parlé, donnerait l'idée d'un film complètement sociologique. Pour être plus juste, c'est un film qui a une approche poétique et philosophique et qui s'intéresse aux sujets qui sont agités par cette période de Covid, c'est-à-dire le rapport au travail, le rapport à la famille, le rapport à la solidarité. Comment
liberté.
Tout ça est reposé sur la table par le Covid et comment tout ça est réexaminé.
Si je peux te poser une question, tu vas faire un film ou plusieurs films? Parce que vu la matière, il y a des choix heureux quand même.
Alors pour la projection au Trianon, je vise un 90 minutes. Et puis je ferai certainement une version plus ramassée, moins romainvilloise, du type 52 minutes, que je proposerai éventuellement aux chaînes, si on en trouve, qui seraient intéressées.
Ouais. Nicolas et Prendre, c'était un plaisir. Il faudrait qu'on fasse une émission un jour, qu'on trouve un cadre pour le faire, sur le thème moral et l'histoire du mouvement ouvrier.
C'est un thème à creuser. Absolument.
À creuser. Ça te plairait, ça?
Oui.
Voilà, on prend des rendez-vous. Et puis, on remercie Monique en cabine.
Parce qu'elle a beaucoup de faire.
De temps en temps, je ne sais pas pourquoi, il y avait un martien qui passait, qui faisait bip bip.
Merci beaucoup. Voilà. J'adresse mes plus plates excuses à Monique.
Bien. Il est bien.
D'ailleurs, vous êtes témoin, les petites caméras que j'ai utilisées pour mon souvenir personnel de cette émission, c'est les mêmes caméras qui servent à tourner le film que je fais et qui sont avec des technologies qui filment tout autour. Donc, elles filment toutes seules. C'est ce qui permet de faire des choses
étonnantes. Ghislaine, avant que, petite histoire, avant qu'on se quitte, dans un quartier bourré de boutiques religieuses où on vend des bibles, etc., un jour, il y avait un étal, comme ça.
C'était du côté de Saint-Sulpice, à Paris,
ça,
bien sûr, forcément.
Il y avait un étal, et je vois un livre magnifique. C'était « Petite messe pour Marie ».
Là, il y avait une
erreur. C'est prometteur.
Là, il y avait une erreur, parce que j'ai feuilleté, j'ai acheté, et franchement, c'est là que j'ai cru en Dieu pour la seule et unique fois de ma vie. On est bien sur Radio Libertaire, 01 43 71 89 40. Merci, Monique.
Sirotant mon vin, tombé de zénith, on a dire. Moi qui me prétends écrivain, eh bien ce soir, j'ai rien à dire. Je jette une pièce à la patronne, et puis j'attrape ma veste en cuir. À Un client fait « Bonne nuit, Bosson ». Je réponds rien, j'ai rien à dire. Et je dérive sur les trottoirs. Les réverbères ont d'affreux rires. C'est fou ce que la nuit devient noire. Putain, quand on n'a rien à dire. Ce n'est pas à coup de silence que l'on se bâtit son empire. Tels sont les mots de ma conscience. Elle parle, et moi j'ai rien à dire. Comme un violeur prend position, je sors mon stylo pour écrire. Mais on ne viole pas l'inspiration. Non, rien à faire, j'ai rien à dire. Les rues défilent et j'accélère. Je songe à me reconvertir. C'est navrant, mais de quoi j'ai l'air? Moi, l'auteur qui n'a rien à dire. Et j'entends les étoiles qui causent. La poésie doit me maudire. Tant de sujets, de nobles causes. Et moi, moi qui n'ai rien à dire. Je croise des feux, des McDonald's. Cette nuit va-t-elle enfin finir? Et je songe à Scott Fitzgerald. Bordel, pourquoi j'ai rien à dire? Et je cours à travers la ville. Je cours pour m'étourdir. Pour oublier l'état servile de celui qui n'a rien à dire. Oui, je cours à travers la ville. Je cours pour m'engloutir. Qu'elles sont cruelles et qu'elles sont viles. Ces nuits où l'on n'a rien à dire. Ces nuits où l'on n'a rien à dire.
Ce tout début de, du mois d'avril correspondait donc au début d'un mois d'avril qui est consacré par la Fédération anarchiste et au-delà, mais on concentre un peu nos efforts, un certain nombre de programmations sur ce mois d'avril anti-nucléaire. Et donc il y avait un premier week-end. Les gens qui étaient présents à Marseille ont eu la chance en primeur de découvrir le magnifique dossier du Monde Liberté à consacrer au nucléaire. Et à son monde, ce monde dont nous ne voulons pas, assurément. Et puis, il va y avoir d'autres événements qui vont se greffer là-dessus. À Paris, et plus particulièrement à la librairie Publico, d'ici la fin du mois. J'en donne quelques exemples, si ma machine accepte de s'ouvrir. Il y a d'autres animations auparavant à Publico sur lesquelles je vais revenir, mais puisqu'on est parti sur cette programmation anti-nucléaire, donc ça commencera à Librairie Publico le mercredi 19 avril à 20h, donc dans le cadre de cette campagne antinucléaire de la Fédération anarchiste. C'est l'Université populaire et libertaire du 11e arrondissement commune de Paris, dans le cadre de son animation ciné de la commune, qui vous proposera un documentaire de Catherine Fumet et François Guerouet, « Notre terre mourra proprement ». Il y a un brin d'ironie dans le titre, puisque c'est l'histoire de la lutte contre les déchets nucléaires et les tentatives de l'ANDRA pour trouver des sites d'enfouissement un peu partout en France. Le dernier, la plupart de ces tentatives ont échoué, mais le dernier en date, l'histoire n'est pas dite, puisque ça se passe à Bure et qu'il y a des luttes pour que ça ne se passe pas là. L'action est difficile de ce côté-là. La réaction est rude, en tout cas. Tout à la fin du mois, on retrouvera des intervenants qui étaient à Marseille. Et donc, notamment, on pourra voir à nouveau le film de Kenichi Watanabe qui s'appelle Notre ami l'atome, un film d'une heure qui sera diffusé le jeudi 27 avril à 19h30 à la librairie Publico. On le sait, Kenichi Watanabe est un cinéaste documentariste japonais. Il vit et travaille en France depuis de nombreuses années. Et il est l'auteur, entre autres, de plusieurs films consacrés au nucléaire. Donc, je pourrais citer en 2013 Le Monde après Fukushima, dont le commentaire a été coécrit avec Michael Ferrier. Et puis Terre nucléaire en 2015, Une histoire du plutonium, là aussi avec un commentaire écrit par Michael Ferrier. Donc ça, ce sera le 27 avril à 19h30 à Publico. Notre ami l'atome, le film de Kenichi Watanabe, dans cette fin de semaine d'avril, le lendemain, le 28 avril à 19h30, ce sera une rencontre au débat avec Jean-Marc Royer, qui lui aussi était présent à Marseille. Je rappelle que Jean-Marc Royer est l'auteur d'un appel intitulé « Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, des crimes contre l'humanité ». Et il est aussi l'auteur d'un livre très important qui s'appelle « Le monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants », publié en 2019. Il viendra donc nous parler de la manière dont ce projet états-unien d'élaboration de l'arme nucléaire est bien plus qu'un projet d'élaboration d'une arme de plus, fut-elle aussi destructrice. Et puis pour clore ce week-end, le dimanche 30 avril à Publico, et ce sera à 16h, nous aurons une rencontre débat avec Thierry Ribaud, lui aussi présent à Marseille, autour du concept de résilience, auquel s'intéresse beaucoup Thierry Ribaud, qui est chercheur en sciences sociales au laboratoire Clercé du CNRS à l'Université de Lille. Il a beaucoup séjourné au Japon. Et il a particulièrement étudié la manière dont les autorités japonaises ont fait en sorte d'obtenir le consentement social au désastre de Fukushima auprès des populations, en utilisant ce terme, ce principe de résilience. Donc il nous en parlera le 30 avril à Publico. Ce sera à 16h, je rappelle. Que Publico, c'est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. On a appris ce matin la disparition du musicien japonais Ryuichi Sakamoto, donc qui était un grand compositeur de musique de film. C'est lui qui avait écrit la musique de Furio, notamment, et d'un film de Bernardo Bertolucci, dont j'ai oublié le titre. Et c'était quelqu'un de tout à fait engagé contre le nucléaire au Japon et ailleurs. Et puisqu'on est toujours dans le nucléaire, il y a aussi des choses qui se passent du côté de Rouen, Serge.
Oui, donc le titre, c'est « Le regard noir d'un technicien EDF sur le nucléaire et son monde ». C'est très intéressant parce que c'est à la fois un éclairage de l'intérieur, si je puis dire, comment ça se passe à l'intérieur central, mais c'est aussi un éclairage intérieur, comment réagissent les gens qui travaillent, qui quelque part savent que c'est dangereux et qui affichent en fait que dire mais non, pas du tout. Enfin, il y a toute une contradiction extrêmement intéressante à comprendre.
Et donc ce sera ce samedi 8 avril à 14h30 à Rouen, à la Maison des Associations et de la Solidarité, 22 bis rue Dumont-d'Urville à Rouen, Théor 1-2-3, station Pasteur. Et donc samedi prochain, le 8 avril à Publico à 16h, on pourra écouter en concert Fanchon Damers pour un concert qui s'appelle Terre Libre, et elle chantera des textes de Raoul Van Eghem. Ce sera donc une rebelle qui chante un rebelle, et c'est donc ça, c'était dans le cadre du mois de mars féministe. 13 avril, une rencontre très intéressante aussi, ce sera à 19h à Publico, et il y aura une rencontre, débat avec des camarades anarchistes brésiliens. Donc après leur participation au congrès de l'IFA, International des Fédérations Anarchistes en Italie, où nous saluons notre camarade et compagnon Federico, des compagnons de l'IFA BR Brésil, donc Iniciativa Federalista Anarchista Brasil, seront de passage à Publico dans le cadre d'une journée européenne pour nous faire connaître les luttes actuelles de l'IFA Brésil et pour informer, et eux pour s'informer sur nos luttes, il y en a, dans l'Hexagone. Voilà, donc ça promet d'être un échange d'expériences solidaires tout à fait exceptionnel et intéressant. Et donc, Publico et tous ceux qui travaillent à la librairie vous convient à cet échange de groupes et de militants le jeudi 13 avril à 19h.
Bien que je sois pas du genre chochotte à m'effrayer comme un moineau, à peine y vente, à peine y flotte, du genre à faire mon numéro, t'inquiète, voyante, extra lucide, planté devant sa boule de cristal, je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule et tout va mal. J'avoue par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serai, disons, pas franchement d'un optimisme forcené. Bêtement vu l'ennemi qui se prépare, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai, c'est bizarre, comme scellé tout au fond de moi, l'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qu'illumine nous aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenin ou en Haïti, comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir. La terre qui saigne un peu partout, mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins. Où le bonheur c'est chacun pour soi, quand il est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir. Où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline, c'est toujours relever le front quand les autres courbent les chines. L'espoir, c'est prendre la parole sans demander la permission, et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui prétendent inéluctables, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table, c'est montrer son plus haut sinistre qui possède les continents, c'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin, des anciens jours de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune de vous rebelles, et que ça n'est pas inutile. L'espoir c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.